Avevamo ipotizzato a questo punto di fare già il break, ma siccome vedo il pubblico piuttosto vivo, nonostante il carattere serrato e anche approfondito degli interventi, direi di proseguire posponendo il break di qualche tempo e darei la parola e do la parola ora al professore Francisco Rui Cadima, portoghese, coordinatore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università Nuova di Lisbona. Professor Cadima.
Bonjour, je remercie tout d'abord l'invitation de Info Civica pour venir ici. Mon thème, c'est le problème de la légitimation du service public à l'ère numérique. Il y a un numéro, c'est un numéro magique pour penser ces thèmes-là, c'est le numéro de l'investissement en Europe en ce qui concerne le service public. L'audiovisuel public, c'est le troisième secteur plus financé par des fonds publics européens. Ça veut dire 22 000 millions d'euros par année. C'est un secteur, c'est le troisième secteur, comme je disais, plus financé après l'agriculture et après les réseaux de transport. Alors, je pense que cela cause une certaine perplexité dans les citoyens européens et tout d'abord le problème de la légitimation. Enfin, je vais parler de différents aspects et un des aspects, c'est le problème des services en ligne. Un des problèmes fondamentaux concernant le service public et les services en ligne a été judicieusement formulé par Mike Redinger dans son étude tout récent, La mission de service public et les nouveaux médias. Elle disait, les activités en ligne des médias de service public qui dépassent le cadre du simulcast provoquent un débat avec les opérateurs de médias privés sur les possibilités et les limites juridiques des offres de services publics dans les nouveaux médias. Les radiodiffuseurs privés craignent une distorsion de la concurrence dans la mesure où des contenus pouvant également être fournis par les diffuseurs privés sont financés par la redevance. La presse proteste en particulier contre la concurrence des offres de textes similaires à la presse. L'ambiguïté du fondement de la compétence non exclusive de la Commission de la communauté en matière de réglementation de la radiodiffusion, entendue comme service d'intérêt économique général, est un autre problème central. Il y a certes une ambivalence de la radiodiffusion qui est à la fois un bien économique et culturel. En fait, la culture apparaît dans la réglementation européenne comme une sorte de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, le plus souvent comme une activité économique soumise à une logique de concurrence, mais également, si besoin est, comme activité non économique. Je pense que le péché mortel dont est entachée la politique audiovisuelle européenne depuis les années 80 repose précisément sur la délicate ambivalence du modèle, de manière à occulter davantage l'option commerciale et concurrentielle de la grande majorité du système européen. La définition des frontières entre les différents niveaux de compétences de la communauté et des États membres, pour moi, ne constitue pas le problème majeur de cette problématique, étant donné que la Commission n'intervient pas dans des domaines décisifs, notamment en matière de production et de diffusion de contenus d'origine européenne. Je cite Roberto Barzanti, ex-vice-président du Parlement européen, quand il disait que lorsque les chaînes remplissent leurs quotas, elles le font généralement avec des œuvres nationales et non avec des œuvres d'autres pays européens. De ce point de vue, on peut se demander si deux des objectifs principaux de 1989, c'est-à-dire la circulation européenne des œuvres et le renforcement de la production par la création d'un second marché, ont bien été atteints. Il y a toutefois un autre sujet primordial en matière d'intervention réglementaire. En effet, la défense du pluralisme et de la diversité est régie par des mécanismes qui sont eux-mêmes des restrictions à la liberté des radiodiffuseurs, car ces textes normatifs ne garantissent pas la mise en œuvre du pluralisme politique, culturel et géographique. La sauvegarde de l'indépendance et du pluralisme doit être une valeur garantie par-dessus, disons, tout critère, même journalistique. En d'autres termes, en soi, la liberté éditoriale ne justifie pas tout et n'importe quelle option, ce qui signifie que sous couvert de la liberté éditoriale, on a assisté et on assiste encore à l'instrumentalisation des services publics. La monitorisation du pluralisme par des entités indépendantes, c'est essentiel. Alors, en bref, un premier groupe de questions. Il y a la question de la distorsion de la concurrence en matière d'offres de contenu. Il y a la question de l'ambivalence de la radiodiffusion à la fois en bien économique et culturel, mais chaque fois, dans la majorité des fois, une option commerciale. La question du déficit d'intervention, de régulation dans des domaines décisifs, notamment en matière de production et diffusion de contenus d'origine européenne, et la nécessité d'une monitorisation et d'une régulation forte et indépendante. Quelques exemples de bonnes pratiques. Pour revenir à la thématique du service public en ligne, selon la Commission, les services qui ne constituent pas des programmes, comme les services d'information en ligne, peuvent également faire partie de la mission quand ils servent les mêmes besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société. L'instrument de contrôle de la BBC, le Public Value Test, évaluation de l'intérêt public, destiné à apprécier la valeur des programmes de la BBC, quel intérêt présente le programme pour la collectivité, c'est la question, nous semble très pertinent. La résolution de BBC Trust de permettre aux médias régionaux d'investir sur Internet, tout en ayant la certitude que BBC n'interviendra pas sur ce marché, constitue une référence importante pour définir l'encadrement des développements à venir dans ce domaine. En fait, la tendance générale, au vu des différents cas, français, irlandais, belge, anglais, semble aller dans la bonne direction, notamment dans le respect des intérêts démocratiques, sociaux et culturels de la société. L'Allemagne, par exemple, aborde la question de façon très claire lorsqu'elle propose que la mission du service public soit limitée aux offres éditoriales reflétant la plus-value du service public, axée autour de l'information, de la formation, de la culture, les arts, les sciences, la pensée, le cinéma, la musique. Il est également important de préserver, comme l'ont fait les Allemands, l'accès à la société de l'information à toutes les catégories de la population. De garantir aux minorités un accès adéquat aux services, de mettre les nouvelles offres numériques au service des citoyens. Une autre question, les aides d'État. Depuis la révision de la communication, tout récent aussi, il n'y a dorénavant pas lieu de considérer comme un service nouveau la diffusion simultanée d'un contenu déjà disponible sur une plateforme de diffusion, soit télévision ou radio, sur de nouvelles plateformes, Internet ou appareils mobiles. Les offres payantes peuvent, je cite la communication, de la Commission, les offres payantes peuvent exceptionnellement être considérées comme partie intégrante de la mission du service public pour autant qu'elles s'y distinguent clairement des offres commerciales. En revanche, la fourniture de contenu premium, selon le principe de paiement à la science, n'est pas considérée comme relevant de la mission de service public. Un autre point, la question du public value. Il est donc fondamental, soit dans le système télévisuel, soit dans les nouveaux médias, de savoir exactement où se situe l'intérêt général des contenus de service public. Cela va dans le sens de la révision de la communication de la Commission. Il est évident que la prescription d'un test à propos de l'intérêt général d'un service permet de vérifier si un nouveau service fait ou non partie intégrante de la mission et s'il provoque ou non une distorsion de la concurrence. Néanmoins, il faudra examiner la question au-delà des services de manière à être également exigeant en matière de qualité et de diversité des programmes. Par exemple, au Portugal, mon cas, le dernier rapport du régulateur relatif à l'année 2008 constate que l'opérateur public portugais ne se distingue pas vraiment des pratiques des opérateurs privés. La question de la qualité. La question de la qualité est une question essentielle, comme le reconnaît d'ailleurs Riedinger, que je citais tout d'abord. Il faut considérer le respect des normes de qualité, car les exigences qualitatives au niveau national constituent la marque distinctive des services d'intérêt économique général dans le secteur de la radiodiffusion. Le tribunal de première instance, la Commission, par exemple, considère qu'il n'y a aucune raison de maintenir un mode de financement public lorsque les organismes publics de radiodiffusion ne respectent aucune norme particulière et opèrent sur le marché comme des quelconques prestataires tels des radiodiffuseurs commerciaux. Autre problème, le problème des audiences. Bien que plusieurs plaintes des acteurs du marché privé aient déjà été enregistrées, il est indispensable de concevoir la mission vis-à-vis la citoyenneté. Comme nous l'avons déjà évoqué, le service public se justifie et se légitime précisément parce qu'il se distingue, on se doit distinguer, des opérateurs commerciaux ayant pour objectif ultime de servir l'intérêt public et, dirais-je, les citoyens et non pas les consommateurs. Ceux-ci disposent d'un marché de milliers de chaînes privées, on parle de 6500 à ce moment-là, avec la Croatie, la Turquie, les potentiels candidats, nouveaux candidats à l'Union. Alors, ces 6500 chaînes de télévision disponibles, je pense que pourront certainement être une bonne, excellente offre aux consommateurs en général, mais les citoyens ont des nécessités plus précises. Or, comme le dit Daniel Dayan, un sociologue français, l'audience est le double obscur du public. Une phrase que c'est tout un programme. Tout d'abord, l'audimétrie est un système de marché auquel ne peut se soumettre la mission du service public. Exactement la question de la mission. Je pense en fait qu'il persiste un vieux malentendu, un paradoxe concernant la définition de la mission. C'est notamment le cas lorsqu'il est question des activités de services publics et de services non publics, de services d'intérêt économique général, de transparence financière, de multiples formes de financement dans le système, de surcompensation, de subventions croisées au profit d'activités commerciales, etc. De notre point de vue, dans un marché hyper segmenté et d'offres multiples, comme est le cas à ce moment, il est de plus en plus difficile de justifier l'existence d'opérateurs publics en système de concurrence ou même tirer un profit d'activité commerciale.
15 minutes.
Merci, je vais essayer, j'ai seulement deux pages. Compte tenu qu'il y a à la fois, comme on peut facilement le constater, un nouveau modèle audiovisuel tout à fait différent de celui en vigueur dans la période de monopole d'État ou d'oligopole, un accès à plus de 6500 chaînes en Europe et un contexte numérique, les médias du système public doivent évoluer dans le sens de la densification qualitative de leur contenu et non vers la tendance inverse. La présence du service public au cœur des nouvelles plateformes de distribution doit en effet faire l'objet d'un débat dans l'espace public. Elle ne peut que se destiner à satisfaire les besoins démocratiques et culturels de la société, sans jamais remettre en question sa légitimité à cause des faits disproportionnés introduits sur le marché, et enfin non nécessaires à l'accomplissement de la mission. Ainsi même, la présence du service public dans le système de pay TV, de télévision à péage, est hautement discutable, et cela de différents points de vue. Du point de vue de l'universalité, du point de vue de l'égalité, du point de vue de la cohésion nationale, du point de vue du financement. Enfin, la question du caractère distinctif du service public, c'est une question qui est aussi référée dans la communication de la Commission. La Commission pense qu'il devrait être tenu compte, par exemple, de l'existence d'offres similaires ou substituable de la concurrence éditoriale, de la structure du marché, de la position de l'organisme public de radiodiffusion sur le marché, du niveau de la concurrence et de l'incidence potentielle sur les initiatives privées. Toutefois, à l'heure actuelle, le mandat et les compétences et surtout les bonnes pratiques du service public restent trop vagues. Parfois, on a l'impression que la définition de service public ne dépasse pas le conseil de service d'intérêt économique général, mais sa mission est clairement au-delà. Si les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles de la concurrence, la mission du service public, elle, dispose d'un cahier de charges bien plus complexe et de notre point de vue est irréductible à un SIG, Service d'intérêt économique général. Enfin, une intervention de la Commission pour la légitimation, la relégitimation du service public est fondamentale. De notre point de vue, la Commission doit intervenir de manière plus claire sur les matières suivantes. Une définition plus approfondie et exigeante de la mission, la production et la diffusion des contenus d'origine européenne, le contrôle de l'indépendance des opérateurs et des régulateurs à travers une monitorisation du pluralisme politique, culturel et géographique, l'adéquation des principes établis par le service public en ligne versus le service public traditionnel, et finalement la réflexion sur les notions d'audience et de public. On trouve aussi dans le cadre normatif une conceptualisation qui conduit à un multiple financement du service public non prévu par la Commission, à l'instar du CAV, c'est-à-dire fonds publics, fonds des actionnaires, publicité, redevances, souscription. Deux ou trois autres choses se profilent, tout d'abord sur le service public télévision dans le contexte européen. Il manque véritablement une réflexion sur la redéfinition de la mission de service concernant une plus grande proximité vis-à-vis du projet de construction européenne. Il est vraisemblablement décisif de penser la relation entre le service public et l'idée d'Europe, je cite Georg Steiner, enfin, et de penser surtout de quelle façon le service public peut contribuer à l'approfondissement de la consolidation du projet européen. On propose une plus grande harmonisation entre les services publics des États membres, ainsi qu'une nouvelle stratégie de communication européenne et des contenus européens centrée sur l'idée de message et non pas sur l'idée de massage. On demande un profond compromis entre l'audiovisuel européen et l'Europe des citoyens, ce qui peut se traduire par sa par la proposition d'un débat élargi et permanent sur ce thème, mené de concert par les institutions européennes, Commission, Conseil d'Europe, Parlement, UER et les différents acteurs intéressés. Finalement, la question de la relégitimation du service public. Elle doit se faire, de mon point de vue, à partir du recentrement sur l'essentiel de la mission. Il n'y a plus de distinction et moins de marché. Un service public qualitativement élargi dans son ambition, quantitativement restreint dans sa dimension. Une relégitimation en fonction de l'idée d'Europe et du projet européen, en fonction de l'héritage culturel européen, dont je pense que est la meilleure public value dont le service public se peut réclamer pour se légitimer. Merci.
Grazie al professor Cadima. È stata forse la voce più convinta su le opportunità, le possibilità di un servizio pubblico europeo, almeno di un messaggio europeo nel servizio pubblico che abbiamo finora ascoltato. Si è anche rivolto il professor Cadima e sono sicuro che il rappresentante della Commissione europea ne avrà preso buona nota con fiducia alla nuova Commissione europea per interventi nel settore. Purtroppo ho notato che nell'intervento del professor Cadima le buone pratiche che sono state citate, ma forse lo avrà fatto per non imbarazzare noi italiani che ospitiamo il convegno, non hanno mai preso in considerazione l'Italia, non eravamo fra le buone pratiche, forse non lo meritiamo, però questo lo lascio al suo giudizio. E ha ricordato anche il professore la prima direttiva sulla televisione senza frontiere, con le sue previsioni di disposizioni in materia di quota. Io ho sempre avuto l'impressione, ma forse mi sbaglio, il professor Michaud francese mi può correggere, che più che essere un modo per diffondere la produzione europea era un modo per essere contro la produzione americana, però può darsi che fosse una lettura maliziosa, visto che c'era molta pressione francese sulle quote all'epoca.